Bonsoir à toutes.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, on va faire un bond à la fois dans le temps et dans la géographie, puisqu'on va partir en Amérique pour s'intéresser au théâtre de Tennessee Williams, donc qui est l'un des dramaturges américains les plus joués en France. Et c'est un théâtre qui touche sans doute à la fois par son humanité et sa détresse. Et comme dirait un grand philosophe dont je tairai le nom, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. On a la culture qu'on a. Alors, on connaît principalement Tennessee Williams pour les adaptations cinématographiques. On pense notamment à Elizabeth Taylor qui joue dans La chatte sur un toit brûlant, ou Vivian Leigh qui joue dans Un tramway nommé Désir, ou alors encore Paul Newman et Marlon Brando pour les hommes. Aujourd'hui, je vais m'intéresser à trois figures emblématiques du théâtre de Tennessee Williams. Tout d'abord, Amanda dans La ménagerie de verre, puis Maggie dans La chatte sur un toit brûlant, et puis enfin, je passerai le plus de temps sur Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir. Pour commencer, je voudrais simplement vous donner une citation d'une pièce de théâtre de David Mercer qui dit « Tu crois que je suis folle? Je ne sais pas ce que ça veut dire être fou. Alors je suis folle? Eh bien, vous êtes malade. » Et je trouvais que cette citation s'appliquait très bien à ces héroïnes en crise de Tennessee Williams. Avant de passer vraiment aux pièces en elles-mêmes, je vais m'intéresser plus ou moins rapidement à la vie de Tennessee Williams et de voir que sa vie, elle est traversée de crises à la fois familiales, amoureuses, sexuelles. Et on va voir comment ces crises se reportent dans son théâtre. Alors, Tennessee Williams est né le 26 mars 1911, de son vrai nom Thomas Lernier, dans le Mississippi. Et il passe son enfance à Memphis, dans la maison de son grand-père, qui est un ancien pasteur, en compagnie de sa mère et de sa sœur Rose. Rose, je vais vous en parler, elle a vraiment une influence très très forte sur ses personnages féminins. Et son père, qui est un alcoolique notoire, est souvent absent. Et l'alcoolisme est un thème qu'on va retrouver également chez Tennessee Williams. Alors tout d'abord, une crise familiale en 1937, il décide de rompre avec sa famille lorsque Rose, donc sa sœur, qui est malade mentale, est internée. Elle va subir une lobotomie en 1943 qui va la laisser très diminuée. Et Tennessee Williams va s'occuper d'elle lorsqu'il va gagner de l'argent et qu'il va rencontrer le succès. Il va subvenir à ses besoins et il aura quand même une culpabilité toute sa vie de ne pas être forcément à côté de sa sœur. Et on pense d'ailleurs que les effets de la maladie de Rose ont contribué notamment à l'alcoolisme de Tennessee Williams, mais également à sa dépendance aux drogues et aux médicaments. Il va alors partir pour la Nouvelle-Orléans, puis pour New York, où il va exercer divers petits métiers. Il va être notamment barman, portier, et puis il va commencer à écrire, tout d'abord des pièces courtes en un acte. Et puis, c'est le début de la guerre et Tennessee Williams va être réformé pour diverses raisons, pour son dossier psychiatrique, son homosexualité, son alcoolisme, ses troubles cardiaques et ses troubles nerveux. Ça fait quand même beaucoup pour la même personne, hein. Et donc, en 43, il va se rendre à Hollywood où il est engagé par la MGM pour écrire l'adaptation d'un roman. Et en fait, ça l'ennuie profondément. Et donc, il va plutôt écrire quelque chose assez autobiographique qui va être refusé par le studio et qui va devenir La ménagerie de verre, qui sera jouée en 1945 à New York et qui est son premier grand succès public. C'est également une des pièces les plus autobiographiques de son théâtre, puisque on le reconnaît dans le personnage de Tom, je vous en parlais tout à l'heure, mais on reconnaît clairement sa mère dans le personnage d'Amanda et sa sœur Rose dans le personnage de... J'ai perdu son prénom, ça reviendra après. À partir de ce moment-là, Laura, voilà, la fille Laura. Dès lors, il va commencer à rencontrer vraiment le succès. Il va écrire notamment Un tramway nommé Désir en 1947 et La chatte sur un toit brûlant en 1955, qui sont parmi ses plus grandes pièces. Mais on peut également penser à Été et fumée en 48, La rose tatouée en 50, La descente d'Orphée en 57, Soudain l'été dernier en 1958 ou encore La nuit de l'iguane en 1961. La plupart de ces pièces ont été adaptées en film. Tennessee Williams ne va pas écrire que du théâtre, il écrit également 2 romans, 5 recueils de nouvelles, un de poésie, un essai en 1972, et enfin une autobiographie, Mémoire d'un vieux crocodile, en 1975. Et c'est vraiment dans ses poèmes, dans ses nouvelles et dans ses mémoires que Tennessee Williams va parler le plus ouvertement de son homosexualité. Alors, au niveau de sa vie privée, elle est elle aussi traversée par de nombreuses crises. Alors, tout d'abord, une crise d'identité sexuelle. Alors, on lui connaît quelques relations hétérosexuelles, bon, qui ont été des fiascos. Et puis, il va partir en 1928 en Europe avec son grand-père. Et là, il va avoir la révélation de son homosexualité, qu'il va accepter vraiment pleinement à la fin des années 30. On le retrouve à ce moment-là à New York, entouré de, il est dans un cercle plutôt homosexuel, notamment d'artistes. Et il va rencontrer donc durant l'été 40 son premier amour, sa première expérience avec Kip Kiernan, qui est un danseur canadien qu'il va rencontrer dans le Massachusetts. Et puis au terme de quelques mois, il va le quitter pour épouser une femme. Donc c'est le premier choc. Et puis deuxième coup dur, 4 ans plus tard, lorsque Kiernan va mourir à l'âge de 26 ans. Donc là, on a vraiment une succession de 2 crises pour lui. Et puis ensuite, c'est des crises de couple plutôt. Alors tout d'abord, en 45, il rencontre le réceptionniste d'un hôtel qui s'appelle Pancho Rodriguez. Et il va avoir une relation pendant 2 ans, de 45 à 47. En 46, Pancho Rodriguez va venir s'installer à la Nouvelle-Orléans avec Tennessee Williams. Et puis, Williams va le quitter à la fin de l'année 47, notamment à cause de ses problèmes d'alcool et ses excès de jalousie. Ils vont rester amis et ils resteront en contact jusque dans les années 70. Et puis, c'est surtout sa grande histoire d'amour, donc de 47 à 63, où il va vivre une relation qui est cette fois sereine, calme, apaisante, avec Frank Merlot, qui devient son secrétaire. Donc là, c'est vraiment une période de stabilité pour Tennessee Williams, qui est plutôt heureux. On sent que les périodes de dépression sont beaucoup moins importantes, elles s'estompent. Et puis, la peur de finir interné comme sa sœur s'éloigne de lui également. Donc tout va bien, du moins les 14 premières années. Puis après, ça commence à aller un peu moins bien, puisque la fin de leur relation va être marquée par leurs infidélités de part et d'autre, et puis également la drogue qui va venir dans leur couple. Et puis, peu de temps après leur rupture, Merlot va apprendre qu'il est atteint d'un cancer des poumons, un cancer incurable, et Tennessee Williams va s'occuper de lui jusqu'à sa mort, en septembre 63. Et puis, une crise qui devient professionnelle, hein, il est très très affecté par le décès de Merlot et puis par la relation, enfin les séquelles de cette fin de relation, et il va plonger dans une dépression et tomber dans la drogue. Il va être hospitalisé, interné plusieurs fois, et il ne va jamais se remettre complètement de cette descente aux enfers. Sa carrière à partir de ce moment-là est beaucoup moins florissante et il mourra en 83 assez seul dans une chambre d'hôtel. Alors voilà rapidement pour vous parler de sa vie. Alors les gens que je vous ai mentionnés, notamment sa sœur, ces personnes-là vont être source d'inspiration pour ces personnages que l'on va retrouver dans ces pièces. Alors Tennessee Williams a souvent dit dans des interviews « Je suis Blanche Dubois ». Bon, Blanche Dubois, c'est une drama queen, donc on peut imaginer que dire ça dans des interviews, c'est un moyen aussi d'accentuer le côté théâtral du dramaturge. Mais on retrouve dans le personnage de Blanche, on retrouve certains traits qui sont propres à Williams. On va retrouver l'alcoolisme notamment, la vulnérabilité, pardon, et puis également l'amour de la littérature par exemple. Et puis la fin de la pièce est assez intéressante puisque à la fin du tramway, Blanche est internée et on a un peu l'impression que Tennessee Williams avait écrit cette pièce. Il y avait une espèce de prophétie un peu dans cette pièce. C'était vraiment la peur qu'il avait à la fin de sa vie et il sera régulièrement hospitalisé. Donc on retrouve ce destin-là qu'il pensait mériter. Et puis alors le personnage de Stanley, qui est donc le mari le beau-frère de Blanche dans le tramway, c'est un peu le genre d'homme qui repoussait complètement Tennessee Williams, mais en même temps qu'il l'attirait. Ce genre d'homme qui soufflait un peu le chaud et le froid sur quelqu'un comme lui. On retrouve évidemment, quand il est question d'alcoolisme, il a toujours des références à son propre père, hein, qui était pas mal porté sur la bouteille également. La relation de Stella et Blanche, donc les deux sœurs du tramway, c'est un peu la relation qu'il a eue avec Rose. Et le monde fantasmagorique de Blanche, ainsi que ses crises d'hystérie, sont clairement influencés par Rose. Et ce monde-là, on va le retrouver également dans le personnage de Laura, la fille de la ménagerie de Vert, qui vit un peu dans sa bulle, un peu coupée de la réalité. Les thèmes récurrents donc, du théâtre de Tennessee Williams, hein, sont aussi finalement les thèmes de sa vie, à savoir hein, l'alcoolisme, l'homosexualité, l'instabilité mentale. Donc, on peut dire finalement que les personnages de Tennessee Williams sont un peu des représentations dramatisées de sa propre vie, mais bon, ça reste des personnages de fiction et donc on ne va pas aller chercher plus loin, faire la psychanalyse de Tennessee Williams dans ses personnages. C'est pas l'intérêt. On va vraiment s'intéresser aux personnages en tant que tels. Et donc j'en ai choisi trois, comme je vous disais en introduction. Maggie dans La chatte sur un toit brûlant, Amanda dans La ménagerie de verre et Blanche dans le tramway. Alors Maggie, tout d'abord, donc pour vous situer un peu l'histoire de la pièce, ça se passe dans le sud des États-Unis et c'est une famille qui est littéralement en crise, notamment le mari, Drake, et la femme, Margaret, Maggie. Donc l'héroïne, cette chatte sur un toit brûlant, c'est elle. On a une crise de couple et ils se retrouvent en fait dans la famille de Brick un soir d'anniversaire. On fête l'anniversaire du grand-père, donc Big Daddy. Et à cette occasion, sont présents le frère de Brick et sa belle-sœur et leurs cinq enfants. Le grand-père, Big Daddy, est atteint d'un cancer, mais on ne veut pas lui le dire. Donc on va cacher la vérité en lui disant que finalement sa maladie c'est pas grave, la batterie de tests à l'hôpital n'a rien révélé, on lui dit rien, on ne va rien dire non plus à sa femme au début de la pièce. Maggie est une belle femme, elle est déterminée, elle vient d'un milieu plutôt pauvre et puis elle a épousé donc Brick qui est plutôt lui d'une famille riche, hein, donc elle a vraiment réussi sa vie, mais elle n'est absolument pas satisfaite, notamment sur le plan sexuel, puisque son mari ne la touche pas, il y a une espèce de mépris permanent envers sa femme. Et Maggie, dans cette famille, elle a un peu un regard extérieur, donc elle se rend compte de ce qui se passe, en fait, et Brick n'a pas conscience que son frère, Gooper, essaye de prendre le contrôle de la fortune familiale, ce que Maggie, elle, voit. Brick, il est un peu étranger à tout ça, il se sent un peu à l'extérieur de ce monde-là, et c'est quelqu'un qui boit également, notamment depuis le décès de son ami Skipper qui s'est suicidé quelques temps auparavant. Et donc, ce soir de réunion, on va mettre à jour un peu toutes les crises que traverse la famille. Donc, Brick va expliquer notamment à Big Daddy que Maggie était jalouse de la relation entre les deux hommes et elle pensait qu'il y avait plus que de l'amitié entre eux. Et Keeper a essayé de coucher avec Maggie hein, pour prouver finalement qu'il n'était pas homosexuel. Bon, ça a été un fiasco et on apprend quelques temps après que Skipper était amoureux de Brick et qu'il a été rejeté et donc il s'est suicidé. Et puis Brick va prendre conscience un peu que tout est faux dans cette famille et donc on va révéler certains secrets, notamment le rapport médical sur l'état de santé de son père. On va d'abord le dire à son père, puis ensuite à sa mère. Et puis, ce qui va le mettre Big Daddy dans une rage folle et il va quitter la pièce un moment. Et puis là, on va commencer un peu à discuter de la division de la propriété familiale. Et puis, Big Daddy revient et il va annoncer ses plans. Et pour être sûr de toucher l'héritage, Maggie va dire qu'elle est enceinte. Puisque, en gros, l'idée, c'est que s'ils veulent hériter, il faudrait quand même qu'il y ait une descendance. Et donc, elle fait croire qu'elle est enceinte. Et puis, Big Mama et Big Daddy la croient, ils sont persuadés de sa sincérité. Le frère et la belle-sœur, pas du tout, ils n'y croient pas, absolument pas. Et une fois seule, en fait, à la fin de la pièce, Maggie va en fait ranger toutes les bouteilles d'alcool et en gros, elle va dire à Brick qu'elle est prête à avoir un enfant. Voilà comment se termine la pièce. Elle veut transformer son mensonge en réalité. Voilà pour l'histoire. Donc le personnage de Maggie, vraiment maintenant en détail. Alors c'est une femme qui est hystérique, elle est insatisfaite, elle est prostrée face à son mari. Elle ressent une énorme solitude par rapport à, notamment au refus de son mari de l'approcher et de la toucher. Et il ne répond absolument pas à ses désirs à elle. C'est évidemment donc le personnage central de la pièce. Et c'est la capacité d'identification qu'on peut ressentir face à ce personnage qui donne vraiment toute la substance de la pièce. C'est une femme qui est donc désespérée, elle souffre du manque. Et on ressent clairement un lien masochiste avec son mari. Je vous donne une citation du début de la pièce où elle est en train de se regarder dans un miroir. Et donc elle nous dit, donc elle voit tout à coup Brick dans la glace et sursaute légèrement. Il se met à siffler, elle se retourne et lui fait face. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Comme quoi? Il se remet à siffler. Comme j'ai vu dans la glace que tu me regardais quand tu t'es mis à siffloter, ça m'a gelé le cœur. Elle se détourne et remonte vers le fond. Ce n'est pas la première fois que tu me regardes ainsi, depuis ces derniers temps. Ça veut dire quoi, ce regard? Je ne savais même pas que je te regardais. Eh bien, moi, je le sais. Dis-moi ce que tu pensais. Mais rien, je ne sais plus. Margaret, quelques pas vers le centre. T'imagines-tu que j'ignore? Hein? Crois-tu vraiment que j'ignore? Que tu ignores, Maggie? Que je suis devenue dure, excessive, cruelle? Elle regarde Brick. C'est ça que tu pensais? Eh bien, je le pense aussi. Mais c'est très bien ainsi. Je ne suis plus sensible. Je n'ai plus les moyens de m'offrir une sensibilité. Mais Brick, oh Brick, elle s'arrête. Brick descend vers la droite en clopinant, passe devant le canapé et regarde au dehors par la porte arrière plan droite. Tu disais quelque chose? Donc on a vraiment un mépris permanent hein, qui est une espèce de leitmotiv dans la pièce. Alors Maggie, faut remonter un peu dans son histoire avant le début de la pièce pour comprendre ce qui l'anime. Alors, ses origines dont je vous parlais tout à l'heure, Maggie a des origines modestes. Elle vient d'un père alcoolique. Hein. On voit quand même que les figures masculines ont quand même une tendance à boire plus que de raison. C'est une famille qui est peu riche. Et on apprend notamment que c'est sa mère qui lui faisait ses vêtements, entre autres. Et quand elle a fait ses débuts en société, donc à Nashville, elle n'a alors que deux robes. Et c'est symbolique puisque après Maggie, au début de la pièce, on la verra changer de robe régulièrement. Et on sent qu'elle, c'est son arme, hein, les vêtements. Et puis bon, elle s'en est bien sortie puisque finalement elle rencontre un homme qui est plutôt riche. Elle est allée aussi à l'université, donc elle s'est finalement faite un peu elle-même. Elle aime l'argent. Son vœu le plus cher, ce serait éventuellement d'avoir un bébé ou en tout cas se mettre au travail pour avoir un bébé. Ce serait déjà pas mal qu'il accepte une proximité physique pour ça. Et lui est complètement dégoûté par elle. Hein. Elle est déterminée à coucher avec son mari. Quoi. C'est vraiment l'obsession. C'est récurrent dans la pièce. Hein. Elle le veut, donc voilà. Et elle va inventer des tas de stratagèmes, notamment pour essayer de susciter le désir de son mari en disant qu'elle avait été courtisée par d'autres, notamment par son beau-père. Enfin, voilà. Et sa motivation, on sent comme elle vient d'une famille plutôt pauvre, bon ben, elle veut sa part de l'héritage et elle n'est pas prête à laisser cette part-là à son beau-frère et sa belle-sœur. Alors, Maggie, c'est le personnage qui est glamour, elle le sait, ça évidemment. Ça n'a pas d'effet sur son mari, bon. Voilà, c'est comme ça. Et on la voit comme une femme séductrice. Elle joue vraiment un personnage tout le temps quand elle est avec les gens. Et on va la voir se transformer, en fait. Et au fur et à mesure de l'acte 1, on va voir une tenue de plus en plus travaillée. Elle va jouer vraiment sur sa féminité. C'est une arme qu'elle va... sa féminité, puis son look, ce sont des armes qu'elle va brandir pour obtenir ce qu'elle veut dans la pièce. Et c'est notamment comme ça qu'elle va plus ou moins charmer son beau-père pour récupérer sa part de l'héritage. Mais malheureusement, l'indifférence de son mari va se retourner contre elle, puisque plus elle va essayer finalement d'attiser son désir, plus elle va s'effondrer. C'est-à-dire que comme... ses désirs à elle ne rencontrent pas ses désirs à lui, elle va au clash et ça va la déstabiliser et donc on va la voir vraiment, on va voir sa vulnérabilité en tout cas affichée au grand jour. Et ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que Maggie, elle utilise son apparence avec les autres, mais également quand elle est toute seule. Donc il y a quand même tout un jeu sur à partir d'où commence le personnage que joue Maggie. Donc on a un peu l'impression que c'est finalement un personnage dans un personnage qu'on nous donne à voir quand elle est au contact des autres. Et on a une scène qui est assez révélatrice de cette idée-là. À un moment, en fait, elle se regarde dans le miroir, elle ferme les yeux et on nous dit en fait que c'est un peu comme un enfant qui serait sur le point d'être piqué par une aiguille de vaccination. Et donc elle ferme les yeux très fort, elle ouvre les yeux, elle se regarde dans le miroir et elle dit « Qui êtes-vous ?» Donc là, on se demande si elle finit par, enfin, si elle n'est pas prise à son propre jeu. Donc une double, finalement une double personnalité, mais on ne sait pas vraiment où se situe la vraie Maggie. Quelle est la vraie Maggie? Est-ce que c'est celle quand on la voit seule? Est-ce que c'est celle quand elle est avec son mari? Quand elle est en famille? C'est vraiment toute une palette de personnages. La question qui est intéressante dans le personnage de Maggie, c'est aussi le rapport à la voix, à sa propre voix. Et on nous dit notamment que Maggie descend, a tendance parfois à descendre dans les graves, comme celle d'un garçon. Et vous avez une image soudaine d'elle jouant à des jeux de garçon quand elle était enfant. Et donc là, quand on a cette image-là, on n'a plus du tout la Maggie féminine, la Maggie séductrice, mais on a plutôt la Maggie un peu masculine, un peu agressive qu'elle peut être aussi parfois. Et c'est un peu un espèce de caméléon finalement, qui est capable de séduire, mais également d'agresser quand ça devient nécessaire pour obtenir ce qu'elle veut. Tout ça, en fait, est lié à un espoir, en fait. Hein. Maggie est une femme qui est remplie d'espoir, qui ne vont pas être, évidemment, assouvis. Et elle est très différente, Maggie. C'est peut-être aussi ce qui fait que elle a de l'espoir, parce qu'elle est complètement en décalage de cette famille, c'est un peu l'outsider. Déjà, elle n'a pas d'enfant face à sa belle-sœur qui en a une ribambelle. Donc on a vraiment la mère qui se reproduit, hein, qui est vraiment, c'est la femme qui est devenue mère, face à Maggie qui est plutôt encore cette femme un peu fatale, un peu séductrice. Donc on a vraiment une opposition. Et puis ce qui fait qu'elle n'est pas vraiment intégrée dans le clan, puisque entre sa belle-mère et sa belle-sœur, elle a une position qui est un peu difficile à trouver. Elle est un peu en retrait, mais c'est peut-être finalement une bonne chose pour elle, puisqu'elle a une conscience que n'a pas forcément son mari. Alors, on peut se poser la question, finalement, à la fin, quand elle a ce désir d'enfant, pourquoi ? Est-ce que c'est un moyen, finalement, de rentrer dans le moule et de reproduire, c'était une image, hein, c'était l'idée de reproduire le schéma, ou alors, au contraire, c'est un moyen d'avoir son mari pour elle. Pourtant, au début de la pièce, on sent que les gamins, elle aime pas trop ça, Maggie. Hein. Elle nous dit à un moment, impossible de leur tordre le cou, ils n'en ont pas. Écoute-les hurler. Où donc ces monstres s'en coulent, lâchent-ils leur corde vocale? Je te jure qu'au dîner, j'étais si excédé, si exaspéré, que j'ai failli me mettre à hurler comme une folle. On m'aura entendu de New York à San Francisco. Céline Dion et Maria Carey peuvent être habillées pour le coup. Hein. Ma chérie, ai-je dit à ta charmante belle-sœur, pourquoi ne pas faire manger tes adorables gosses à une table à part sur une bonne toile cirée? Regarde le gâchis qu'ils font sur la nappe en dentelle. Tu es folle, elle m'a dit. Le jour de l'anniversaire de Big Daddy, il ne me le pardonnerait jamais. Or, il n'était pas à table depuis 2 minutes, avec ses gosses qui s'empiffraient, qu'il a jeté sa fourchette. Et donc il a dit, pour l'amour de Dieu, Gooper, qu'on m'expédie ces cochons-là à la cuisine et qu'on leur donne une auge. J'ai cru mourir de joie, d'intarissable joie. On peut la comprendre, hein. Et donc, cette infécondité qui caractérise Maggie remet en question son statut à la fois de femme et son statut d'épouse. Bon, c'est une femme sans enfant qui a une espèce de manque. Et sans enfant, ce manque va devenir matériel, puisque l'héritage n'est pas forcément assuré pour Blake. Et puis, on remarque, hein, que Maggie est souvent assimilée des tropes de la virginité dans la pièce. Au début, elle se réfère à elle-même ironiquement comme Sainte Maggie. Et à la fin de la pièce, May, donc sa belle-sœur, plaisante en fait en disant que la seule façon qu'elle pourrait avoir un enfant, c'est d'être immaculée. Donc on a cette idée-là qui revient régulièrement. Et donc on a cette opposition entre la virginité purement symbolique de Maggie face à la fertilité qui est presque grotesque de sa belle-sœur en fait. Et on finit par croire que Maggie est réduite simplement à être une femme trophée. Voilà, c'est le seul, n'étant pas mère, sa place dans la famille, c'est d'être le trophée d'un mari qui finalement s'en moque un peu. Et donc on voit que Maggie se trouve au centre de plusieurs crises qui vont en fait du plus personnel au plus élargi finalement. Tout d'abord, une crise par rapport à elle-même, donc ce que je vous disais tout à l'heure, où commence son personnage, où commence sa vraie personnalité. Après, c'est une crise de couple par rapport à son mari. Et puis, c'est la crise familiale, finalement, puisque trop différente de cette famille-là, elle ne trouve pas sa place. Donc, on a vraiment un miroir entre les deux belles-sœurs qui nous font prendre conscience de ceci. Amanda, elle, est un peu différente dans la ménagerie de verre. Alors, la différence, c'est que Amanda, l'histoire d'Amanda se passe dans sa propre famille. Ce n'est pas une pièce rapportée comme peut l'être Maggie. Et puis, la deuxième différence, c'est l'absence du mari d'Amanda qui l'a abandonnée. Mais finalement, Brick n'a-t-il pas déjà abandonné sa famille, en tout cas d'un point de vue symbolique ? Et d'ailleurs, Maggie nous dit « On est plus solitaire avec un homme qu'on aime et qui ne vous aime pas que si l'on vit toute seule. » Et donc, on voit bien l'opposition entre ces deux femmes. Alors, La ménagerie de verre est une pièce vraiment assez autobiographique, comme je vous le disais tout à l'heure. Et c'est une pièce qui est basée sur des souvenirs. Tom vient raconter les souvenirs avec tout ce qu'il peut y avoir comme distorsion, comme oubli, comme chose qu'on a assimilé de manière différente. Et donc, il nous raconte les souvenirs de sa mère, Amanda, et de sa sœur, Laura, dans les années 40, à Saint-Louis, pardon, dans le Missouri. Et Amanda vit donc avec ses deux enfants, qui ont une vingtaine d'années, et elle vit isolée du monde. Donc elle a été abandonnée par son mari, et elle s'est finalement un peu retirée de la réalité. Elle vit dans un monde un peu fantasque, où elle repense souvent à ses anciens galants qui venaient la courtiser quand elle était jeune. Et donc, je vais vous lire une citation du début de la pièce. Donc Amanda dit « Je veux que tu sois fraîche et jolie pour les galants. » Laura « Je n'attends pas de galants. » Amanda « Quelquefois, ils viennent quand on les attend le moins. Ainsi, par exemple, je me rappelle certains dimanches après-midi à Roche Bleue. » Tom « Je connais la suite. » Laura « Oui, mais laisse-la raconter. » Tom « Encore ?» Laura « Ça lui fait du bien, tu le sais. » Amanda, un dimanche après-midi, à Roche Bleue, votre mère a reçu 17 galants. Parfois, on manquait de chaises tellement ils étaient nombreux. Il fallait envoyer le nègre chercher des plions au presbytère. Tom, et comment les recevais-tu, tes galants ? Amanda, l'art de la conversation n'avait pas de secret pour moi. Tom, ah, ça pour parler, je suis tranquille, tu t'y entendais. Amanda, en ce temps-là, les jeunes filles savaient causer, je vous assure. Tom, oui. Alors là, on a une image, donc Amanda en jeune fille sur un perron recevant les visiteurs. Il faut savoir que dans la pièce, on a un écran, un système d'écran où vont s'afficher notamment des textes. Amanda, elle savait recevoir leurs galants. Il ne leur suffisait pas d'avoir un visage agréable et une silhouette gracieuse. Encore, je n'ai pas été défavorisée sous ce rapport, croyez-le bien. Il fallait aussi un esprit subtil et une langue prompte à la répartie. Tom, de quoi parliez-vous ? Amanda, de tous les événements importants qui arrivaient dans le monde. Jamais de choses grossières, communes ou vulgaires. Elle s'adresse à Tom, comme s'il était assis à la place vacante, et bien qu'il se tienne planté contre les portières. Tom joue cette scène comme s'il lui faisait réciter une leçon. Amanda, mes soupirants étaient tous des gentlemen. Tous. Parmi eux, il y avait quelques-uns des jeunes planteurs les plus en vue du delta du Mississippi. Planteurs, fils de planteurs. D'un signe, Tom demande la musique et un projecteur sur Amanda. Amanda lève les yeux, son visage est radieux, sa voix prend une intonation plus riche et légiatique. Sous-titre à l'écran, mais où sont les neiges ? Il y avait le jeune Lichelin, celui qu'on appelait le champion, et qui est devenu par la suite vice-président de la Banque des Planteurs. Hadley Stevenson, qui s'est noyé dans le lac de la Lune et qui a laissé à sa veuve 150 000 dollars en bon du trésor. Il y avait les frères Cootray, Pim et Weasley. Pim était un des plus brillants de mes galants. Un jour, il s'est pris de querelle avec ce jeune fou de Winfield. Ils ont réglé l'affaire au revolver sur la jetée du lac. Pim a reçu une balle dans le ventre. Il est mort dans l'ambulance. Lui aussi a laissé sa veuve amplement pourvue. Elle a hérité de 8 à 10 000 arpents, vous vous rendez compte? Il l'avait épousée par dépit, après s'être fait évincer ailleurs. En fait, il ne l'avait jamais aimée. C'était ma photo qu'il portait sur lui le soir de sa mort. Et puis, il y avait aussi ce garçon merveilleux, spirituel, beau comme un astre, que s'arrachaient toutes les filles du Delta, le petit Fritz Fritz de la Vallée Verte. Qu'est-ce qu'il a laissé à sa veuve, lui? Il ne s'est jamais marié, bonté divine. On croira en t'entendre que tous mes anciens amoureux regardent pousser les pissenlits par la racine. N'est-ce pas le seul survivant de tous ceux que tu viens de citer? Donc, on a l'idée de quelque chose qui se répète, hein, quelque chose qui revient régulièrement. C'est un peu son refrain lancinant qui a tendance un peu à saouler ses enfants, mais qui, on sent, la rend radieuse et elle retrouve son éclat de sa jeunesse. Et puis, donc dans cette famille-là, donc Amanda qui s'est un peu retirée de la réalité, elle a quand même des ambitions pour ses enfants, notamment pour sa fille Laura qu'elle aimerait bien mariée. Bon, Laura, elle est socialement handicapée, elle a beaucoup de mal, elle est d'une timidité maladive, ce qui fait qu'elle a vraiment du mal à lier contact avec les gens, et elle vit dans son monde, et son monde, c'est sa ménagerie de verre, donc des petites figurines en verre avec lesquelles elle joue. Donc Tom, donc le fils, travaille dans une usine de chaussures. Lui, il n'a qu'une envie, c'est de partir, il a envie de fuir de cette famille-là. Et sa mère va lui demander de trouver un de ses collègues qui pourrait éventuellement servir de mari à Laura. À ce moment-là, il invite Jim, qui est donc son collègue de travail. Il vient dîner, donc on fait une grande cérémonie, enfin vraiment on met les petits plats dans les grands pour recevoir Jim. Et durant la soirée, Jim va tenter de briser cette timidité qui empêche Laura de s'épanouir. Et puis, après, ils vont danser, il va l'embrasser, et juste après, il va lui dire qu'il part, puisqu'il est déjà fiancé ailleurs. Donc, très sympa. Donc, Laura n'est pas très... Bon, Amanda, pardon, n'est ppas très contente de savoir que son fils a trouvé quelqu'un qui allait se marier. Et puis, donc, Tom va partir à la fin de la pièce, il quitte à son tour l'appartement pour vivre sa propre vie, et en espérant que sa sœur sera capable de se débrouiller sans lui. Et là, clairement, hein, on retrouve le schéma familial de Tennessee Williams, à savoir le père absent et la sœur malade. Alors, dans cette pièce, je vais axer ma lecture sur le personnage d'Amanda, mais en fait, finalement, chaque personnage traverse un peu une crise, et chacun est à même d'essayer de se battre contre le désespoir de leur vie. Pour Amanda, sa crise initiale, en fait, c'est la déception de se voir vieillir et de prendre conscience que ses jours de gloire sont derrière elle. Je crois que c'est le drame de sa vie. Et donc, ça va la motiver à trouver un mari à sa fille, une espèce de projection de la mère sur la fille. C'est-à-dire que ce que la mère ne peut plus accomplir, elle espère que la fille pourra le faire. Et donc, sa difficulté, donc, c'est d'une part d'accepter ce qu'elle n'est plus, mais également d'accepter que sa fille ne sera jamais ce qu'elle a été. Donc il y a vraiment pour elle un double drame dans sa crise. Et la crise de Laura, c'est son incapacité donc à s'intégrer avec succès dans la société. Et le climax de la pièce arrive vraiment assez tard, il arrive à la toute fin de la pièce, lorsque Amanda apprend que Jim est promis à une autre femme, et que là, elle comprend qu'il n'y a plus d'espoir pour sa fille. Donc ce personnage d'Amanda, qui est finalement assez touchant, parce qu'il est en fait incapable d'accepter la réalité. La relation d'Amanda à la réalité est la plus compliquée dans la pièce. Alors Laura a une relation déjà compliquée à la réalité, puisqu'elle ne s'intègre pas socialement, mais Amanda, c'est particulier, puisqu'à la fois, elle a des valeurs assez terre-à-terre. Elle veut notamment un bon mariage pour sa fille, elle veut que son fils gagne de l'argent, donc des choses qui sont qui relèvent d'une réussite sociale et financière, mais en même temps c'est valeurs terre à terre qui l'empêchent de voir une certaine réalité des choses, et elle n'arrive pas à accepter le fait qu'elle est ou devrait être autre chose que la belle qu'elle était devenue parce qu'elle avait été éduquée de cette manière, en fait, hein. Donc elle reproduit les schémas familiaux, et finalement le retrait d'Amanda dans l'illusion est encore plus pathétique que celui de ses enfants, puisque en fait elle, son retrait de la réalité, c'est simplement en fait une nostalgie qu'elle a complètement déformée. Tous ses souvenirs sont ce qu'elle a voulu qu'ils soient, mais ne sont en aucun cas une réalité. Oui, on voit quand même qu'elle essaye de se raccrocher à la réalité, notamment en voulant trouver un mari à son fils. Hein. On sent que là, il y a un retour vers la réalité, mais bah, pour le coup, qui ne fonctionne pas. On sent un espèce de clash. Et la fin de la pièce, quand Jim donc avoue qu'il est marié, enfin qu'il va se marier, on voit clairement les faiblesses à la fois psychologiques et morales d'Amanda. Je vous donne simplement la fin de la pièce où Amanda dit à Tom: Jim n'est pas ton meilleur ami à l'entrepôt? Si, mais comment voulais-tu que je sache? Je trouve extrêmement bizarre qu'il n'ait rien su du prochain mariage de ton meilleur ami. L'entrepôt, c'est là où je travaille. Ce n'est pas là où j'apprends des choses sur les gens. Tu n'apprendras jamais rien nulle part. Tu vis dans les nuages. Et tu te nourris d'illusions. Tom se dirige vers la porte. Où vas-tu? Au cinéma. C'est ça. Maintenant que grâce à toi, nous sommes ridiculisés, tu vas au cinéma. Tous nos efforts, tous les préparatifs, tous les frais, le nouveau lampadaire, la carpette, la robe de Laura, et tout cela pourquoi? Pour recevoir le fiancé d'une autre fille? Va au cinéma, ne t'inquiète pas de nous, de ta mère abandonnée, de ta sœur infirme, sans mari, sans travail. Que rien ne vienne troubler ton plaisir égoïste surtout. Va, va, va au cinéma. Très bien, j'y vais. Plus tu me casseras les oreilles avec tes discours sur mon égoïsme, plus vite je m'en irai, et pas au cinéma. Eh bien va-t'en, va dans la lune, rêveur égoïste. Tom lance son verre par terre et se précipite sur le palier en claquant la porte. Laura pousse un cri qui est coupé net par la fermeture de la porte. La musique du dancing donne à plein. Tom s'agrippe à la rampe de l'escalier et tourne son visage vers la lune qui envahit le gouffre de l'impasse. Sous-titre à l'écran, et adieu donc. Pendant tout le dernier récitatif de Tom, une pantomime se joue dans l'appartement, que le public voit à travers la glace d'une cabine étanche ou non. On aperçoit Amanda pelotonnée sur le sofa. Maintenant qu'on n'entend plus, Amanda a cessé d'être ridicule. Elle n'est plus qu'une femme digne, courageuse et tendre, et d'une beauté pathétique. Les cheveux de Laura lui cachent la figure jusqu'au moment où sa mère, ayant fini de parler, elle lève vers elle son visage et lui sourit. Les gestes d'Amanda, pendant qu'elle console sa fille, sont lents et gracieux comme une figure de danse. À la fin de la tirade de Tom, elle souffle les bougies. La pièce est terminée. Donc on a, encore une fois, comme avec le personnage de Maggie, on a une espèce d'ambiguïté hein, qui clôt la pièce. On comprend hein, finalement que les rêves d'Amanda sont un peu écroulés et qu'on suppose qu'elle va finalement accepter sa fille telle qu'elle est. À l'opposé d'Amanda, on a une troisième héroïne de Tennessee Williams qui, elle, est vraiment haut en couleur, c'est Blanche Dubois, qui est sans doute la plus connue de ces personnages. Blanche Dubois donc arrive au quartier français de la Nouvelle-Orléans pour revoir sa sœur Stella. Elle est déçue hein, au début quand elle voit l'appartement. Bon, elle s'attendait à quelque chose de plus glamour. Elle trouve le quartier pas très fréquentable. Elle se montre à la fois délicate, méprisante, mythomane, et on sent que Blanche est attirée, enfin est habitée même par des rêves qui ne sont pas vraiment aboutis. Alors elle parle toujours de cette propriété de famille, Bellerive, qu'ils ont été obligés de vendre pour régler des dettes. Et puis, elle va toujours parler de son passé avec complaisance et elle va dénigrer le présent, et notamment le présent de sa sœur. Elle a beaucoup de mal avec Stanley, le mari de Stella. On comprendra plus tard que c'est un peu cette idée d'opposition, de rejet, mais d'attirance en même temps hein, qui fonctionne. Stanley ne l'apprécie pas trop, il la trouve un peu trop coquette, un peu trop maniérée pour elle. Et puis, il la soupçonne d'avoir un passé pas si glorieux que ça, et il va finir par découvrir le passé de Blanche. Blanche, qui a les nerfs fragiles, pour parler gentiment, va finir complètement folle. Elle passe vraiment de la mythomanie à la folie, et elle finira internée. Alors, on a plusieurs moments de crise dans la pièce. Tout d'abord, avant le début de la pièce, qu'on apprend tout au début, elle va perdre, elle perd son emploi, elle est prof, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Au début, elle dit qu'elle est venue en vacances, qu'elle avait besoin de repos, qu'elle était fatiguée, et donc que son directeur d'école l'a mis en vacances forcées. On apprendra plus tard qu'en fait, elle a couché avec un élève. C'est quand même beaucoup moins bon. Sa réputation, pour le coup, en a pris un coup. Elle a perdu donc la maison de famille. Et puis, on apprend également que son mari s'est suicidé suite à la découverte de son homosexualité. Donc elle arrive à la Nouvelle-Orléans, on suppose, pour commencer une nouvelle vie. Et puis alors là, on va avoir toute une série de crises, notamment entre, enfin, qui sont liées à Stanley, son beau-frère. Donc lui, enfin, ils ne s'aiment pas l'un et l'autre, et lui va essayer de percer le personnage. Alors, tout d'abord, il va donc l'accuser à tort, en fait, et de vouloir récupérer l'héritage pour elle. Il pense, Stanley pense que Blanche veut éloigner sa sœur pour récupérer l'argent. Ensuite, bon, il est alcoolique, il va battre Stella qui est enceinte, on se croirait dans Confession intime tournée dans le Nord, et no offense, Blanche donc va essayer de convaincre sa sœur de le quitter. Bon, ça marche pas forcément. Puis Stanley va fouiller dans le passé de Blanche et découvre l'affaire avec l'élève. Et il va à ce moment-là convaincre Mitch, qui est donc le prétendant de Blanche, à ne pas l'épouser. Durant la soirée d'anniversaire de Blanche, Stanley va lui faire un magnifique cadeau. Il lui offre un ticket de bus pour retourner de là où elle vient. Très sympa le beau-frère. Et puis donc là, coup de tonnerre à ce moment-là de la pièce. Alors que sa femme est en train de devenir maman à l'hôpital, Stanley revient et là, attention danger, il viole Blanche. Donc c'est vraiment le climax de la pièce, c'est ce viol qui va finir de déclencher la fin de la pièce. En parallèle, on a une crise avec Mitch, donc qui est son prétendant. Au moment où Stella perd les os, elle se retrouve toute seule à l'appartement, elle est complètement saoule. Et il est complètement saoul quand Mitch arrive pour rompre, et à son tour, elle va sombrer aussi dans l'alcool. On a une crise avec Stella. Des semaines après le viol, en fait, Stella est en train de préparer le départ de Blanche pour l'asile. C'est elle qui est en train de lui faire ses valises, et elle refuse de croire aux accusations de Blanche contre Stanley. Et puis enfin, la dernière crise, qui est une crise totale, c'est Blanche qui va sombrer cette fois dans la folie, qui est complètement déconnectée de la réalité. Et au début, elle croit, quand les médecins arrivent pour l'interner, elle pense qu'elle va rejoindre un millionnaire qui veut l'épouser. Donc elle va essayer de charmer le médecin avant de se rendre compte qu'elle part pour l'hôpital psychiatrique. Stella et Mitch ont quand même des regrets de faire interner Blanche. Stanley, lui, alors aucun état d'âme. On s'est débarrassé de la belle-sœur. Alors ce personnage de Blanche, c'est un personnage qui est multiple finalement, et je vais la traiter comme une comédienne en fait. Je vais vous montrer en quoi je vais traiter Blanche en tant que comédienne, en tant qu'artiste de théâtre, à la fois comédienne et metteur en scène, on le verra ensuite. Alors, en tant que le personnage de Blanche, tout d'abord, on sent qu'elle n'est pas du tout dans le bon décor. Hein. Dès le départ, quand elle arrive, ses manières, sa tenue, tout nous montre le décalage entre elle et l'univers dans lequel elle est. Et on nous dit même dans une didascalie que son apparence est incongrue par rapport au décor. Ce n'est pas son monde. On sent que dès le début, le déni, hein, elle ne veut pas s'avouer et avouer pourquoi elle est là. On la voit, elle rêve sa vie, elle s'invente des liaisons, des amis ou encore des souvenirs, et aussi contradictoire que les mensonges puissent être, elle s'en moque, elle continue toujours sur sa lancée. Une fois qu'elle est partie, elle ne recule devant aucun mensonge finalement pour elle-même les croire. On sent quand même une certaine forme d'hystérie de la part de Blanche. Hein. Elle est assez agitée. Au début, ça va, puis ça va aller crescendo tout au long de la pièce. Et l'hystérie, on pense au départ que c'est donc lié à l'utérus, une maladie de l'utérus. Et on a toute une scène quand elle découvre que sa sœur est enceinte, où elle s'excite, elle nous dit « Stella va avoir un bébé. Je ne savais pas qu'elle allait avoir un bébé. » Stella comme étoile, comme c'est merveilleux d'avoir un bébé. Et elle serre sa sœur dans ses bras. Et on sait que l'hystérie est liée à un événement traumatique de l'enfance. Et on a une espèce de retour symbolique de l'enfance chez le personnage de Blanche. Quand elle prend un bain, hein, évidemment, c'est la baignoire, c'est le symbole de l'utérus, etc., du fœtus. Et donc l'eau qui la purifie, etc. Et on a l'impression en fait que Blanche se lave à chaque fois ses précédents mensonges pour en faire de nouveaux. Bon, Stella va annoncer sa grossesse. Blanche, étant très égocentrique, elle ramène la conversation sur elle. Et Blanche, aussitôt exaltée, aussitôt calmée finalement. Dès que elle va s'exciter sur un événement, la grossesse, et puis ça retombe. Et là, elle va revenir sur elle et elle va penser tout de suite que Stanley a des vues sur elle. C'est son moyen d'attirer à nouveau l'attention sur elle. Elle se met elle-même en scène et elle a ce besoin de séduire tous les hommes qui vont passer autour d'elle. On a notamment une scène à la fin de la scène 5 avec un marchand de journaux où elle lui dit ils discutent et à un moment il lui propose à boire en gros et puis l'homme lui dit un tiré avec du soda et elle lui répond vous me donnez l'eau à la bouche. Lui, je crois que je ferais mieux, Blanche, jeune homme, jeune homme. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à un prince des mille et une nuits? Donc, bon, elle, ça c'est pas une cougar, mais on sent quand même qu'il y a une attirance quand même pour la jeunesse, et il y a une espèce de culte hein, de la jeunesse de la part de Blanche. Quand c'est pas ce marchand de journaux, c'est Mitch qu'elle tente de séduire, Stanley également, donc son beau-frère, etc. Blanche, en fait, ce qui l'intéresse, en fait, c'est pas tant un homme, enfin, c'est pas tant l'homme pour ce qu'il peut être, mais c'est simplement pour la protection qu'il pourrait lui apporter. Et on voit que c'est une femme qui se sent abandonnée, trahie lorsqu'il la quitte. Elle pensait avoir trouvé cette protection, mais cette protection s'effondre et à ce moment-là, elle va sombrer dans l'hystérie la plus complète, cette hystérie liée à l'alcool qu'elle vient de s'enfiler par la même occasion. Et puis, alors par contre, ça ne dure pas, puisque du moment que Stanley arrive, on voit Blanche, pimpante, et qui va vamper son beau-frère. Donc on voit bien à quel point c'est un personnage. C'est-à-dire que, en une fraction de seconde, elle est capable de changer complètement de facette. Elle se met en scène, et quand elle est face à des hommes, elle va vraiment changer même de cible. En très peu de temps. Quand elle est en train de draguer son marchand de journaux, donc on voit hein, avec son histoire d'eau à la bouche, tout ça, Mitch arrive, et alors là, le livreur, le vendeur de journaux, il n'existe plus. Ce qui l'intéresse, c'est Mitch maintenant. Mais en fait, on comprend hein, que finalement, bon, Mitch non plus, c'est pas celui qui l'intéresse le plus. Hein. À chaque fois, on pense qu'elle a trouvé l'homme qu'il lui fallait, mais non. On sent bien que quand même, c'est Stanley qui l'attire le plus. Il représente à la fois la virilité, la masculinité et la protection qu'elle recherche. Mais alors lui, il n'est pas dupe du tout. Pardon ?
Il dit surtout qu'on doit rester dans le monde.
Voilà. Bon, après, c'est l'adaptation cinématographique. Et Stanley il a des airs un peu rustres, hein, c'est pas le mec le plus raffiné qu'on puisse croiser, mais il a quand même une certaine sensibilité et il comprend. Il n'est pas du tout dupe, il comprend que Blanche est réellement un personnage. Et puis, il y a l'idée de protection, mais il y a également l'idée de transgression, puisque c'est quand même le mari de sa sœur. Donc forcément, là. Et je pense que c'est un peu le jeu du chat et de la souris pour le coup, mais plus Blanche va être attirée, plus lui va la tenir à distance, et elle n'arrive pas à le faire graviter autour de lui. Tous les autres hommes de la pièce gravitent autour d'elle, sauf Stanley. Et puis, c'est quand même lui qui va la mettre face à ses vérités. Et une fois que Blanche va être mise face à sa propre réalité, elle peut laisser tomber son masque, et elle va complètement s'effondrer et sombrer dans la folie. On sent que tant que les gens n'arrivent pas à la percer complètement, Blanche arrive à tenir son rôle. Ça demande des mensonges, ça demande une certaine mise en scène, mais elle y arrive. Du moment que Stanley a découvert comment elle fonctionnait, elle ne tient plus debout et elle s'effondre. Il y a un caractère très autodestructif en fait dans l'hystérie. Je vous parle du rapport aux hommes, mais je voudrais quand même parler rapidement du rapport aux femmes, son rapport à sa sœur notamment. Stella, donc qui veut dire étoile en latin, on peut se demander en fait laquelle brille le plus finalement dans la pièce. Est-ce que c'est Stella ou est-ce que c'est Blanche? Stella a l'air très en retrait, très effacée par rapport à la place que peut prendre sa sœur. Mais bon, on sent quand même que Céla, elle est plus posée, elle a plus de recul. Et quand Blanche arrive et qu'elle voit sa sœur ne peut pas en placer une. Et Blanche lui dit, laisse-moi te regarder. Ne me regarde pas, non, non. Ne me regarde pas toi. Céla, non, non, non. Un peu plus tard. Attends un peu, quand j'aurai pris un bain et je me serai reposé. Et puis éteins un peu cette lumière, éteins. Je ne veux pas qu'on me regarde sous cette lumière crue. Je croyais que tu ne reviendrais jamais dans cet horrible endroit. Qu'est-ce que je raconte? Ce n'est pas du tout ça que je voulais dire. Je voulais être gentil et dire, quelle chance d'avoir trouvé un endroit si pratique et tellement... Mon cher Ange, tu ne m'as pas encore dit un mot. On voit bien qu'elle n'arrive pas, même d'un point de vue linguistique, à placer un seul mot. Et la lumière, c'est quelque chose qui va revenir régulièrement, notamment avec Mitch. Hein. Blanche ne veut pas être vue dans la lumière, sans doute ne veut-elle pas afficher son âge, et elle préfère qu'on on la voit dans l'obscurité, c'est plus flatteur. Mais on a toujours l'exemple de Marie Tudor, quand Philippe II d'Espagne arrive à la cour, elle est un peu vieillissante, et comme il ne l'a encore jamais vue, elle va avoir un éclairage très, très discret pour pas qu'on voit que sa vieillesse naissante. Voilà, une petite parenthèse. Et l'interrogation de Blanche, c'est de savoir ce que Stella fait avec un homme comme Stanley. C'est pas qu'elle le méprise, même si on peut quand même en douter, mais on sent quand même qu'elle envie finalement sa sœur. Pourquoi? Parce que sa sœur, elle a trouvé un mari, bon, il la tape accessoirement, mais bon, elle a trouvé un mari, elle va avoir un enfant, tout ce que Stella n'a pas eu et n'arrivera pas à avoir. Donc est-ce que finalement, Stella ne serait pas un miroir non brisé de sa sœur? Et puis on sent quand même que Blanche va reprocher à sa sœur de rester avec son mari. Peut-être que Blanche, ça l'arrangerait qu'elle le quitte, bon, l'histoire ne le dit pas. Et Stella va lui reprocher à ce moment-là son côté excessif, et va lui dire, Blanche, j'avais oublié comme tu peux être nerveuse, tu fais bien trop d'histoires pour rien. Et là on sent quand même qu'il y a un peu une sorte de renversement de situation, dans le sens où Stella, en étant très calme et très posée, finalement prend l'ascendance sur sa sœur. Mais Stella va, même si elle prend un peu le dessus, elle ne comprend pas tout à fait le jeu de Blanche, et à la fois ses manipulations et ses multiples personnages. Donc elle, je l'ai dit plusieurs fois, Blanche se met en scène, elle met en scène également, et on voit bien que la pièce en elle-même, elle questionne toute la question de la mise en scène et toute la théâtralité et la métathéâtralité, c'est-à-dire le théâtre qui parle du théâtre. Il y a de nombreuses didascalies dans la pièce, mais qui nous donnent des indications de décor, de personnages, de costumes, mais c'est à peu près tout. Mais quand on regarde les répliques de Blanche, on a ce qu'on appelle des didascalies internes, c'est-à-dire des déplacements, des gestes qui sont dictés par les paroles du personnage. Et on voit qu'avec Blanche, c'est régulièrement ça. C'est elle qui met en scène, et on voit très bien qu'elle a ce côté femme de théâtre, avec tous les accessoires qu'elle a. Elle arrive avec une malle, qui est pleine de robes, donc ça c'est des costumes. Elle passe son temps dans la salle de bain qui lui sert de loge. Elle est toujours en train de se repoudrer, donc évidemment c'est ce que Cazan appelait le masque social, donc encore le personnage de théâtre. Et puis elle met en scène avec les histoires de lumière, notamment quand elle veut de l'obscurité, quand elle est avec Mitch. On sent bien que c'est elle qui décide un peu de tout. La représentation qu'on se fait de Blanche en lisant la pièce, alors il y a eu tellement de mises en scène qui ont été faites qu'on a eu toutes les Blanches possibles et inimaginables, même des Blanches qui étaient noires pour le coup. On a eu toutes sortes de mises en scène en fait. Mais l'idée qu'on fait de Blanche, c'est un peu finalement l'alcoolique mondaine qui part en tournée dans une province qu'elle méprise, qui est là parce que elle se sent obligée, mais que finalement ça n'intéresse pas plus que ça. Mais en même temps, c'est un moyen d'avoir des gens autour d'elle, d'avoir sa cour, d'avoir son public, et des gens qui vont l'applaudir, entre guillemets, ou la violer dans le cadre de Stanley. Blanche, elle a quand même un problème dans son personnage, elle a une faille, enfin, une parmi tant d'autres, mais c'est l'improvisation. On sent qu'elle est toujours obligée d'improviser ses mensonges, quitte à en inventer un autre pour justifier le précédent. Les apparats sont parfaits, hein, elle est toujours très coquette, toujours très bien habillée, mais elle n'aurait sans doute jamais pensé être déstabilisée par Stanley. En arrivant, elle pensait vraiment qu'elle réussirait à rester dans ce dans son monde à elle et faire croire que c'était sa réalité. Finalement, en fait, Blanche donc se fait prendre à son propre piège et c'est elle qui se fait étouffer par les autres personnages puisque dans la dernière scène, tout est mis en scène contre elle pour la faire interner. Et ce qui est intéressant, c'est que Blanche se fait prendre à son propre jeu et Vivian Leigh, donc l'actrice qui a joué Blanche au cinéma, avait dit aussi que elle s'identifiait un peu trop à Blanche pour rester saine. Donc on se rend compte quand même l'influence du rôle qui peut-être joué à répétition doit être assez difficile. Et donc on sent quand même une complexité d'interprétation du personnage de Blanche. C'est un personnage qui oscille vraiment du début à la fin de la pièce. Elle n'est jamais, on ne sent pas de progression, c'est-à-dire qu'on va passer d'un extrême à un autre, d'une émotion à une autre, de l'hystérie au calme, de l'euphorie presque aux pleurs. Et donc c'est l'inconstance de Blanche hein, qui en fait, je pense, un personnage difficile à interpréter. On a presque l'impression finalement que Blanche change d'émotion à chaque fois qu'elle change de robe, quoi, ou le contraire, je ne sais pas. Et donc on a, je pense, chez Tennessee Williams une interrogation sur le théâtre de théâtre contemporain, même si bon, on est dans les années 50, mais il s'interroge vraiment sur la notion de personnage en fait. Et Blanche qui se met en scène, on a l'impression que finalement Tennessee Williams en tant qu'auteur s'est complètement effacé derrière Blanche Dubois. On a l'impression qu'elle a pris l'ascendance et en écrivant, on a l'impression que il n'y a plus besoin de metteur en scène à cette pièce, il n'y a plus besoin, l'auteur est complètement, il disparaît complètement, mais on a l'impression que Blanche, le personnage de Blanche suffit à comprendre la mise en scène du texte. Et à la toute fin de la pièce, on comprend qu'il y a une espèce de crise de la représentation, puisque Blanche a complètement sombré dans la folie, et on a une mise en perspective cette fois du théâtre. Et Anne Huberfeld, qui était une critique de théâtre, théoricienne du théâtre, disait que non seulement le personnage se situe à la place de toutes les incertitudes textuelles et méthodologiques, mais il est le lieu même de la bataille. Et Blanche Dubois, elle est au centre d'une bataille engagée contre elle-même, mais aussi entre les personnages, une bataille dont elle sera l'enjeu du début à la fin de la pièce. Donc on sent que le tramway est vraiment une pièce qui interroge, qui questionne la notion de personnage. Et puis, on peut donc se dire que c'est finalement un texte théâtral sur le théâtre, hein, c'est un texte métathéâtral, et elle dresse un peu un état du théâtre, et je vais reprendre les mots d'Anne Huberfeld pour conclure, qui nous disait « Le personnage de théâtre est en crise, ce n'est pas nouveau, mais il n'est pas difficile de voir que pour lui la situation s'aggrave, divisée, éclatée, éparpillée en plusieurs interprètes, mise en question dans son discours, redoublée, dispersée, il n'est pas de sévice que l'écriture théâtrale ou la mise en scène contemporaine ne lui fasse subir. » Et la semaine prochaine, je vous parlerai justement des personnages qui se font mutiler le texte, mais mutiler physiquement chez Sarah Kane, en faisant un bond encore de 40 ans pour se rapprocher de nous. Merci beaucoup. Thank you.